Alors Joy, toi, ta chronique, donc premier passage pour cette saison 3, première chronique aussi, on enchaîne les chroniqueurs pour leur première. Qu'est-ce que tu nous as, on en a parlé un peu en début d'émission, mais c'est quoi ton thème de prédilection à chaque fois que tu viendras?
On voit le titre qu'on a trouvé en bas. Que je...
Ah oui, le titre, ça a été trouvé hier.
100% horreur.
Non, l'eau, je tiens à le dire, je trouve ça un très bon titre. L'eau, c'est...
Il était très content.
J'en suis content.
Très inspiré.
Ouais.
Mais alors, quel est le sujet de ta chronique?
Bah écoute, l'horreur, alors l'horreur au sens large, ça peut être tout et ça sera un peu de tout, ça sera mes trouvailles sur internet, des films à vous recommander de mon cru, pas le meilleur film d'horreur en 2021, je suis pas allée piocher la liste du trio sur, voilà, c'est des trucs que j'ai vus, c'est des trucs que je recommande, je suis assez difficile, donc voilà, ça sera un peu ça, et puis des jeux vidéo, un peu tout, les trouvailles du moment quoi. Et là du coup, bah pour Halloween, forcément... je lis des threads d'horreur, une sélection de films et un jeu vidéo, voilà.
Bah c'est parfait. Quand j'ai vu la liste, je dis, eh ben, on va en avoir pour notre argent. C'est gratuit, on en a pour notre argent. C'est magnifique.
Ça. Alors moi déjà, un truc que j'adore, c'est les histoires sur Internet. Et du coup, je suis allée un peu fouiller, non pas sur les Reddit les plus standards hein, qu'on connaît un peu via les youtubeurs actuels, je suis plutôt allée chercher des histoires qui vont être, et je trouve qu'ils sont les plus efficaces, plausibles, auxquelles on peut s'identifier, et surtout qui sont vraies. Alors après, bon, c'est Reddit, on sait jamais si c'est vrai à 100%.
Le mystère.
Ceci dit, voilà, le Reddit dans lequel je suis allée piocher mes deux histoires que je vais vous conter dans quelques secondes, c'est « What is your scariest true story ?» Donc, quelle est votre histoire vraie la plus effrayante ? Réponse sérieuse uniquement. Voilà, donc c'est un petit thread. Il n'y a pas grand monde qui a parlé dessus. Donc, c'est pas très connu et les histoires sont plutôt très cool. Et du coup, la première que je vais vous raconter, c'est celle du lapin de Pâques. Donc, on reste dans les costumes, même si c'est pas vraiment la même période. Vous saurez en quoi vous déguisez après cette histoire. Alors, la première, le lapin de Pâques. Du coup, c'est Kitty Perry 83 qui a écrit ça. Donc, j'ai traduit, évidemment. Je vais pas vous la lire en anglais. Alors écoutez, fermez les yeux, projetez-vous dans cette histoire.
Mettez-vous dans le noir.
Moi vraiment me terrifie. Alors, quand j'étais plus jeune, j'habitais près des bois et je pouvais voir un cimetière depuis mon porche arrière. Un jour de Pâques, je me souviens m'être à moitié réveillée et avoir vu le lapin de Pâques, je parle d'un de ses costumes terrifiants, debout dans ma chambre, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'odeur du foin humide. Je me suis rendormie et à mon réveil, je ne l'ai dit à personne, mais il y avait aussi un œuf de Pâques supplémentaire dans ma maison que mes parents n'avaient pas caché. Des années plus tard, quand j'étais au lycée, j'ai demandé à mes parents s'ils s'étaient déguisés en lapin de Pâques et étaient venus dans notre chambre. Ils m'ont répondu qu'ils ne se donneraient jamais autant de mal. Puis ma jeune sœur, avec qui je partageais un lit superposé lorsque cela s'est produit, a dit qu'elle se souvenait du moment où le lapin de Pâques était entré dans notre chambre et avait fait une remarque sur l'odeur du foin. J'étais terrifiée à l'idée que nous nous souvenions toutes deux d'avoir vu une personne déguisée en lapin dans notre chambre sans en avoir jamais parlé ensemble. Pour rendre les choses encore plus étranges, j'ai raconté ce qui s'était passé aux amis avec qui j'étais assise au déjeuner. L'une d'elles était ma voisine d'en face. Elle m'a raconté qu'un jour de Pâques, il y a longtemps, elle avait regardé par sa fenêtre pendant la nuit et avait vu le lapin de Pâques debout dans son allée. J'ai eu des frissons. Depuis ce jour, je suis terrifiée par les personnes déguisées en lapin. La fin me fait rire, mais l'histoire est quand même assez terrifiante si elle est vraie. C'est pas rassurant du tout de voir ça quand on est gamin. Je pense que ça traumatise de Pâques pour la vie entière. Donc voilà, ce lapin, j'espère que le visuel vous plaît. Vous savez en quoi vous déguisez. ne vous promenez pas au milieu des cimetières habillés comme ça.
C'est souvent les clowns dans cet équivalent qui font peur. Mais après les clowns, les lapins, oh là là.
Ah ouais, non mais mine de rien en fait, c'est ça. C'est que ça change vraiment des peurs habituelles. Et la phrase de fin, j'avoue, me fait rire quand même.
pour le coup, ce costume-là, là, sur le visuel, lui, il n'est pas rassurant.
Il n'est pas rassurant du tout.
Il est à la fois mignon et hyper malsain.
C'est ça. Parce qu'en plus, tu ne sais pas qui est dedans, donc tu fais...
Ça
fait flipper.
Ma deuxième histoire, qui est un peu plus longue, et qui va parler des enfants. On aime bien les enfants. Dans les films d'horreur, en général, ça fait son petit effet. Et là, c'est un papa qui du coup, témoigne. Du coup, là, le prochain s'appelle Le Fermier, donc de Tucker 48. Ma belle-mère était une femme très drôle et très cool. Ma femme était très proche de sa mère et malheureusement, elle est décédée lorsque notre fils avait environ 4 mois. Quelques années plus tard, nous avons emménagé dans une vieille maison artisanale des années 1930 à Pasadena en Californie. Notre fils avait environ 3 ans à l'époque. Un soir, je lui donnais son bain et il a commencé à regarder par-dessus mon épaule. Non pas des choses au hasard, mais quelque chose de précis. Un moment passe et il me demande pourquoi grand-mère appelle maman d'un drôle de nom. Long silence. Je lui demande alors ce qu'il veut dire, pensant qu'il parle de ma mère à moi, qui est toujours en vie. C'est alors qu'il prononce le surnom de ma belle-mère, donné à sa mère, à ma femme, et me redemande ensuite pourquoi grand-mère appelle maman comme ça. J'ai été très choquée par cette question. Ma femme et moi n'avons jamais utilisé ce surnom, c'était juste le nom que sa mère lui donnait depuis qu'elle était bébé. Comme il ne l'a jamais connu et n'a jamais pu nous entendre le dire, je lui demande où il a entendu ça. Il me répond « Le fermier me l'a dit ». Je lui demande qui est le fermier et il me répond que c'est son ami. J'ai raconté cette histoire à ma femme plus tard et elle a bien sûr fondu en larmes à cause de cette histoire de surnom. Nous savons tous les deux qu'il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir. Le week-end suivant, mon fils est en train de jouer dans sa chambre. Ma femme est au travail et je suis à la maison. Je l'entends commencer à parler comme s'il avait une conversation. Il a dit des choses comme « oui, non, je ne sais pas », puis il rit. Je vais dans sa chambre et lui demande ce qu'il fait. Il me répond qu'il joue. Je lui demande avec qui il ayant entendu parler. Il me répond « avec le fermier ». À ce moment-là, je pense déjà à ce putain de film L'Exorciste, c'est un peu troublant. Je lui demande où est le fermier. Il me répond qu'il est parti quand je suis arrivée. Ma femme rentre à la maison, je lui raconte ça, et elle est tout aussi effrayée que moi. Nous ne savons pas quoi faire et nous nous disons que si cela se reproduit, nous essaierons d'agir. Quelques jours plus tard, au milieu de la nuit, nous entendons notre fils dire ce qui suit. « Grand-mère dit que toi et moi, nous ne pouvons plus être amis. » Ma femme et moi allons le voir, tous les deux un peu effrayés. Il était assis dans son lit. Je lui demande s'il va bien. Il me répond que oui, que grand-mère dit que je ne peux plus jouer avec le fermier. Il n'a plus jamais mentionné le fermier. Plus jamais. Il a 13 ans maintenant et ne se souvient de rien. Mais nous, oui. Voilà.
C'est chaud.
Faites des gosses, hein.
C'est chaud.
Mon ami imaginaire.
Alors vraiment, c'est... Enfin, ça me terrifie parce que... Enfin, déjà, les enfants, c'est toujours utilisé de façon...
Déjà, les enfants, ça fait peur. Ayant travaillé en maternelle, ça fait peur. Déjà.
C'est pour ça qu'en fait, ces histoires, je les ai choisies parce qu'elles ne me paraissent pas... folle au point que ça soit faux, et je pense que vraiment c'est des histoires vraies, c'est plausible en fait, et que bah, du coup c'est encore plus terrifiant parce que ton gamin fait ça, qu'est-ce que tu fais quoi. c'est difficile quand même parce que en tant que parent etc, tu te dis bon c'est chaud quoi.
ils ont pas la notion de peur en plus, tu vois, ils sont trop surtout par rapport à l'âge de l'enfant, tu te dis pas il a assez de recul d'âge pour se dire « Ah, je connais ça, je vais leur faire peur, tu vois. » C'est on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est ce côté-là, très innocent, très naïf, qui rend le truc encore plus flippant parce que tu te dis, ils s'inventent des choses. On sait tous inventer un ami, un machin ou autre, mais il y a une différence des fois. Là, tu vois, dans les faits, dans les paroles, tu fais... C'est pas le côté, ouais, c'est bon, il a Casimir, son ami imaginaire, et c'est bon, je vais chercher des vieilles références.
Casimir, oui, de vieux.
Il y a même pas de ma génération, d'ailleurs. mais là, il y a vraiment ce côté, c'est pas un ami mignon ou autre, c'est déjà, tu sais, tu veux dire...
Ouais, c'est... Le fermier, quoi. Après, il faudra avoir un historique de la maison pour vraiment corroborer cette histoire. Est-ce qu'elle a été habitée? Mais bon, et comme il le dit, c'est une vieille maison... artisanale de 1930, donc ça pose quand même l'historique un peu qu'il y a pu y avoir dans cette baraque, donc on sait pas, mais c'est assez intéressant parce qu'il en donne et pas suffisamment en fait, donc on est assez perdu, mais c'est quand même assez angoissant. Et j'aime beaucoup la phrase en tant que père, le mec se dit carrément, je pense déjà à ce putain de film L'Exorciste, ça me fait rire quand même de tiens, le gamin il est possédé là.
Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est fou, et surtout c'est toujours dans des trucs où tu te dis ça n'angoisse pas les enfants, tu sais, je veux dire, moi je me réveille en disant parce que c'est forcément qu'il a entendu des trucs, enfin il y a quelque chose d'un peu mystique entre guillemets, et mais moi ça m'arriverait ça, nous en tant qu'adultes où on a beaucoup plus de références pop culture ou de je ne sais quoi, Je veux dire, ça nous choquerait que le gosse, c'est... Bah oui, on est venu me parler. Enfin voilà, ça, c'est, ça fait très non, mais moi, normal.
Déjà, le gamin, je le laisse plus jamais seul. Plus une minute, quoi.
Non, mais je le mets dans sa tente dehors. Moi, je le sors de la maison. C'est lui qui est hanté.
Avec le fermier dehors.
La tente Quechua, tu vas l'utiliser, mon gars. Hein.
Ouais, il va avec ton pote, là, dans les champs. C'est bon, quoi.
Ah ouais, non, mais moi, c'est toujours ce côté-là. Parce que quand j'en écoute, on dit, c'est un petit peu la mode. Et, entre guillemets, on peut en entendre. Il y a beaucoup de gens plus ou moins talentueux. Il y a plein de gens plus ou moins connus qui en font. Et avec plus ou moins de talent, je disais. Et c'est bien de voir la diversité qu'il y a. Il y a toujours cette question de... moi, j'aime bien de tous ce côté un peu, quand ça touche le paranormal, de que c'est vrai, de quelle manière, si c'est pas complètement vrai, mais quelles sont les parts que tu... Même si tout n'est pas vrai, t'as des fois des parts qui te font t'inquiéter quand même. Même la moitié des fois, tu fais « Ouais, ça, c'est sûr que c'est vrai, mais c'est déjà inquiétant. »
C'est ça. C'est assez compliqué après la question du paranormal.
Et le doute et fait peur.
Le doute fait peur. Et puis ben après, il y a aussi gens qui croient que ce qu'ils voient, j'en fais partie. Hein. J'ai beau aimer beaucoup le genre horreur, mystique, tout ce qui est surnaturel, etc., le paranormal. Je me documente beaucoup et c'est vrai que bah, je suis quand même du côté des sceptiques. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de le voir de moi-même. Après,
le fermier. Oui, le fermier. Le voir
Moi, perso, je voudrais pas voir le fermier quand même.
Peut-être le lapin de Pâques, du coup.
Non plus.
Attends,
non
plus.
Quand on allait le soir.
On a un sondage en cours sur Twitch, donc en live. Apparemment, le fermier est le plus angoissant des deux, mais bon, le lapin, pareil. Hein, enfants, j'aimerais pas le croiser. Hein.
Et alors, c'est du coup, vous vous demandez peut-être que regarder lors du soir d'Halloween ou même en général avoir une petite, voilà, exactement.
Il oui, n'y a pas de moment pour regarder des films d'horreur si on aime
exactement,
ça.
Exactement, même regarder un bon film d'horreur, voilà. Donc après, j'en ai pas parlé au tout début parce que j'ai fait une trouvaille cette semaine, mais c'est dans mes recherches justement d'essayer de vous conseiller. J'avais deux films et je voulais en conseiller un troisième, mais vraiment dans le thème d'Halloween. Du coup, je suis un peu allée fouiller. Je suis tombée sur qui, à mon sens, est une pépite. Je vous en parlerai à la fin. D'abord, je vais aborder les deux premiers films. Il y a un tout premier film qui s'appelle The Visit de Night Shyamalan, donc, que vous connaissez sûrement très récemment avec le film Split, mais qui a fait Sixième Sens, Le Village, Incassable, etc. Du coup, qui s'essaye à un premier found footage. Le found footage dans le genre horreur et les films d'horreur, c'est en fait utilisé comme Blair Witch, un peu comme si on avait récupéré une caméra dans le cas de Blair Witch, par exemple, dans la
amateur.
Forêt. Et du coup, on va diffuser les images trouvées comme si ça avait été bah, du coup, filmé à l'épaule, voilà, exactement comme dans The Visit. Et voilà, du coup, c'est utiliser une sorte de média trouvé quelque part et en faire un film et montrer, sous-entendu, ces images sont réelles, ont été tournées par des vraies personnes, etc. Et du coup, ce genre-là est assez intéressant parce qu'il y a tout un mysticisme autour. Quand est-ce qu'on l'a trouvé? C'était qui? Pourquoi? Et dans The Visit, ce qui est très intéressant... Je vais d'abord vous lire le synopsis et après je vais vous dire pourquoi le regarder. Voilà. Alors, synopsis, c'est deux enfants sont envoyés passer une semaine en Pennsylvanie dans la ferme de leurs grands-parents. Mais lorsque l'un d'eux découvre qu'ils sont impliqués dans quelque chose de profondément dérangeant, leurs chances de retour s'amenuisent de jour en jour. Alors déjà, ce réalisateur, il a un style particulier qui fait que... Il sait raconter ce genre d'histoire et il sait poser une sorte de mystère sans jamais trop en montrer. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce film. Et c'est une histoire dans laquelle on peut s'identifier assez facilement, sachant qu'on est du point de vue des enfants. Et il y a aussi ce côté, je trouve, très oppressant, parce que c'est des enfants, en fait, et qui sont livrés à eux-mêmes.
Toujours les
c'est
enfants.
C'est assez rare, en fait. Bah, en fait, d'habitude, les enfants sont assez terrifiants, mais là, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et c'est ce côté-là, en fait, qui fait que le film fonctionne aussi, quoi. Voilà, donc, bon, là, ça parle de grands-parents, donc, globalement, je pense que, quand même, on va pas se le cacher, les vieux et les enfants dans les films d'horreur, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc, c'est vrai que c'est assez terrifiant, quoi. Les jumpscares sont hyper efficaces et l'ambiance via les grands-parents qui jouent très très bien et très malsaine. Et voilà, donc je vous le conseille, c'est un très bon film à voir et vous ne serez pas déçus.
Et
voilà.
J'ai vu 7 octobre, c'est donc déjà largement à l'écran là.
Oui, bien sûr, ouais, il est sorti il y a un moment. Donc il est trouvable. Okay. Alors j'ai pas regardé sur quelle plateforme il peut être regardé. Ceci dit, après.
Mais dans le style, moi je trouve que tu parlais avec les enfants, les vieux, et ça marche toujours très bien, je suis d'accord. Ouais. Mais dans le style, tu disais, ouais, l'effet, c'est le cas dans autre que des films d'horreur, c'est beaucoup plus dans le film d'horreur, mais le côté caméra épaule tremblante, du coup, où elle bouge beaucoup, moi je trouve que c'est toujours le côté. C'est souvent des fois utilisé juste dans certaines scènes, quand le film n'est pas entièrement fait comme ça, où tu te dis, à ce moment-là, il va se passer un truc particulier. Et là, tu te dis que ça, à tout moment, d'une part, il y a un film d'horreur, ça, à tout moment, il peut vraiment se passer un truc, tu t'y attends peut-être pas. Et là, je trouve, moi, c'est un des trucs qui aide à l'angoisse, et en tout cas, moi, qui m'angoisse beaucoup.
Parce que c'est de la vision première personne. Tu sais qu'il va se passer un truc, et la personne est hyper naïve à filmer ses trucs.
Qui est la personne derrière, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver quelque chose à la personne qui filme, à la personne, aux personnes qui sont filmées. Du coup, t'as ce côté, tu sais pas trop d'où va venir la menace, qu'elle soit pesante, sans parler de jumpscare ou autre, on parle pas d'un gars qui va te gicler à l'écran, mais rien que ça, rien que quelque chose d'angoissant, mais tu sais pas qui est-ce qui est vraiment visé, puisque la caméra est via une vraie personne qui est dans le scénar.
Là, c'est vraiment une ambiance qui est posée. Les jumpscares sont efficaces parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y a une anecdote, du coup, j'ai pris quelques anecdotes sur les films. Un truc qui fonctionne très très bien dans l'horreur et qui est rarement fait, c'est que dans ce film, il n'y a aucune bande originale, en fait. Tous les sons et toute l'expérience que vous allez vivre se passent via l'enregistrement des enfants. Et du coup, en fait, il n'y a pas de musique qui va monter vous prévenant qu'il va se passer quelque chose. Il n'y a pas de bande originale. Donc, en fait, c'est des fois, quand il y a du silence, c'est un silence pesant. Et l'attitude des grands-parents, les enfants qui se posent des questions, et quelques vidéos comme ça qui sont un peu mises comme des scènes de coupe sont très angoissantes. Et ça monte tout doucement, et ça, c'est très efficace, vraiment.
C'est disponible depuis 2015, hein. C'est un film de 2015, hein, j'ai vu.
Ouais.
D'accord. Allez, octobre,
c'est récent, ouais, 7 octobre, mais pas de cette année, quoi. Ok.
C'est ça. Et du coup, bah, à retrouver, c'est vrai que je suis en train de regarder, mais je ne sais pas trop, des plateformes. J'aurais bien dit des Blu-ray, mais l'homme a dit comment qui achète encore des Blu-ray. Donc je ne le dis pas. Je ne dis plus rien maintenant, c'est pas physique.
Je vous le ferai la prochaine fois. Je vous dirai où est-ce qu'on peut les trouver. Après là, je sais pas, je sais que quand même le réel.
Le chat, Tachibana, vas-y, regarde s'il te plaît.
Est-ce que c'est sur Netflix en fait? C'est la question que tout le monde se pose.
Netflix, Amazon Prime, ouais, un des deux de toute façon.
Je pense que ça y est. Après, au pire des cas, il y a toujours la location sur Amazon Prime, il me semble, même sur les consoles, etc. 3,
sur MyCanal, ouais. Sur Canal Plus, de ce que je lis vite fait. MyCanal.
MyCanal.
Ah oui, c'est pas fou quoi.
Netflix.
Mais
pas en France.
Ah, pas en France, très bien.
Désolé, je vous fais des fausses joies.
Notre futur sponsor NordVPN.
Ça tombe très bien parce que nous sommes sponsorisés NordVPN.
Confetti. Mais apparemment pas en France.
Bon, écoute, et ben alors du coup, passons au suivant.
Oui, prochain film. Alors moi, c'est un film qui m'a terrorisé et qui est. Attention, c'est une étude. Alors je vais vous lire le truc parce que ça vraiment, c'est trop bien. L'histoire autour de ce film, du coup, je ne savais pas, et c'est fou, c'est qu'une étude scientifique publiée en 2020, analysant l'augmentation de la fréquence cardiaque des spectateurs pendant le visionnage de 50 classiques de cinéma d'épouvante, a désigné ce film-là comme le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps. Et non, c'est pas L'Exorciste, c'est Sinister,
ah oui, quand même.
De Scott Derrickson, qui a fait L'Exorcisme d'Emily Rose, donc si vous l'avez vu, voilà, qui était plutôt sympa. Je n'ai pas trouvé L'Exorcisme d'Emily Rose exceptionnel. En revanche, Sinister est très très bien. Alors, le synopsis. Un écrivain passionné de récits criminels, joué par Ethan Hawke, en mal d'inspiration pour trouver son prochain sujet, emménage avec sa famille dans une maison où a lieu l'épouvantable assassinat d'une famille entière. Il découvre dans le grenier de la maison une boîte contenant un projecteur et des bobines de pellicule Super 8 sur lesquelles ce meurtre, ainsi que plusieurs autres, ont été filmés. Il poursuit son enquête et découvre une entité qui pourrait bien mettre sa propre famille en danger. Voilà. Du coup, ce qui fonctionne très très bien, je trouve, c'est le thème qui, en même temps, fait très peur et en même temps, attise beaucoup la curiosité. C'est les snuff movies. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait, clairement, en gros, des scènes horribles qui sont filmées, mais des vraies scènes réelles qui sont filmées comme ça et qui vont être trouvées sur le Darknet, etc. C'est l'horreur, hein. C'est vraiment l'horreur, ce genre de truc, mais du coup, là, le sujet, voilà, c'est le mec, c'est du found footage en même temps, ce dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il a trouvé, ses bobines, d'un propriétaire inconnu pour le moment. Et il y a aussi ce côté snuff movie, parce que c'est des scènes de torture et de meurtre, etc., qui sont dans le film réel. Et du coup, voilà, le mec tombe là-dessus. Et c'est hyper efficace, parce que voilà, c'est ce côté curiosité, qu'est-ce qu'il y a sur ces images, on a envie de savoir, en même temps on n'a pas envie de savoir, et ça marche très très bien. C'est assez oppressant quand on se retrouve lui face, voilà, comme on voit lui face à son écran, c'est assez oppressant, et vraiment ça marche très très bien. Voilà, donc c'est un très bon film que je conseille aussi, qui m'a traumatisée.
Bien cet enchaînement.
Il m'a traumatisé, donc
je vous le conseille. Je ne dors plus la nuit, je vous le conseille.
Exactement.
Comme moi, ne dormez plus. Prime Video, nous dit Tachibana.
Vous aussi, allez voir
le regarder.
Psychothérapeute.
Prime Video, ok.
Ouais, super. Pour le coup, Sinister, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, et celui-là, il est assez bien fait. Ouais. Et j'avoue que moi, j'ai pas souvent peur dans les films d'horreur, mais je les aime bien quand même. Mais celui-là, il met un petit coup de pression quand même par moment. Quoi.
Ouais. Ah, puis il y a cette curiosité aussi, quand on arrive dans un nouveau lieu, on a envie, je sais pas vous, mais moi oui, mais envie de fouiller un peu, savoir est-ce qu'il y a des secrets. Moi j'ai acheté une maison, là, je vais fouiller en fait, s'il reste des trucs ou si voilà. c'est un peu.
Ouais, tu en feras des vidéos, tu en feras un live entier pour regarder.
Attends, si je tombe là-dessus, je fais pas de live, je revends la maison.
Effectivement.
On est bien d'accord.
Effectivement, oui, c'est ça. Mais le côté curiosité malsaine, ouais.
Ouais, bah ça, de toute façon, ça fonctionne, on le sait très bien. En fait, ouais. Rien que sur l'autoroute, t'as un ralentissement parce qu'il y a un accident et les gens veulent voir. C'est terrible, mais c'est dans la nature humaine.
Tout le monde tourne la tête, ouais.
Voilà, vaut mieux faire des choses innocentes et regarder des films au cinéma qu'aller chercher sur le Darknet ce genre de produit. Voilà. Donc,
exactement.
Regardez Sinister, ça vous calmera dans votre curiosité malsaine.
Il y a eu 2012, Sinister. Moi, je suis monsieur date. Amazon Prime Video, ils mettent 2013, j'avais vu 2012 sur Google, donc on est dans ces eaux-là, donc ça vous permet de vous donner les idées. Et Tachi, c'est monsieur plateforme, où est-ce qu'on peut la regarder?
C'est ça. Bon, allez, vous complétez, comme ça c'est super.
Parfait.
Et du coup, la petite trouvaille de cette semaine. Donc je cherchais un film typiquement d'Halloween. J'en connaissais pas vraiment, par les classiques évidemment, mais du coup j'avais envie de vous faire connaître un truc qui n'était pas forcément connu. Ça s'appelle Trick or Treat de Michael Dougherty. Et du coup, c'est vraiment un cliché de film d'Halloween. Et en fait, le film relate quatre histoires d'horreur d'Halloween ayant un élément commun, Sam, un enfant mystérieux qui vient chercher des bonbons et porte un vieux pyjama orange avec un sac en toile de jute sur la tête. Le personnage fait une apparition dans chacune des histoires, chaque fois que l'un des autres personnages rompt une tradition d'Halloween. Alors, petit conseil sur les traditions d'Halloween, si vous regardez ce film, n'oubliez pas d'allumer votre citrouille à Halloween, c'est très important. Sinon, Sam viendra vous rendre visite. C'est un film qui est plutôt récent. On peut retrouver notamment, si vous connaissez, comment elle s'appelle, Anna Paquin, de True Blood, ou encore dans Malicia dans X-Men. Donc voilà, elle joue un petit rôle dedans. Et je trouve que c'est un super film dans le sens où c'est pas prise de tête. Il y a vraiment cette ambiance à la chair de poule à l'époque. Qui est génial, et en parallèle c'est aussi un hommage aux comics, aux EC Comics des années 50,
ouais,
qui sont des comics qui faisaient un peu tous les genres et qui se sont lancés dans l'horreur aussi, et en fait ça a explosé. Et aujourd'hui les jeux vidéo c'est un peu la bête noire, hein, des médias, etc. On accuse toujours de leur... de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les mauvais comportements. À l'époque c'était les EC Comics, et... dans les années 50, voilà, c'était complètement décrié à cause de ça, parce que la délinquance juvénile, c'était à cause de ça, etc. Contrairement aux jeux vidéo, ce genre de critiques ont eu raison de ces comics-là, et c'est bien dommage, parce que le style graphique se retrouve même chez Frank Miller, etc. Si vous avez pu voir un peu ces films, c'est hyper intéressant. C'est un style qui aurait dû continuer, je pense, parce que franchement, ça a inspiré énormément d'œuvres, de réalisateurs, d'écrivains, etc. Et voilà, donc ce film, en fait, il y a quelques passages comme ça, avec quelques bulles de comics ou un style assez graphique là-dessus. qui fait penser à ces comics-là, et j'adore vraiment, l'ambiance est très cool. Et il y a, attention, il y a zéro effet spéciaux numérique, donc c'est que du fait main.
Ah, ça,
et,
j'adore ça.
On aime bien, voilà, c'est cool de revenir un peu aux traditions. Donc voilà, ça m'a vraiment plu, et c'est vraiment dans l'ambiance, les contes de la crypte, Creepshow, etc. C'est pas prise de tête, mais c'est vraiment sympa de regarder ça pour Halloween. Vraiment, pour le coup, c'est un film sûr. Voilà.
Très bien, monsieur, il me donne bien envie, tu vois.
Vraiment. Il est vraiment cool.
Le déguisement du gamin, et c'est un peu comme le lapin tout à l'heure. Il a l'air très simple, mais il fait son petit effet.
Il est efficace. Ouais.
C'est vraiment fun. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé moi dans le film, c'est qu'à un moment on voit, il y a pas de spoil, hein, mais à un moment on voit le visage de ce fameux Sam sous sa toile de jute, et je trouve que c'est pas fou. Après, c'est toujours le principe, moi je suis quand même plutôt candidate au « on m'en montre pas beaucoup » et on pose une ambiance, je préfère qu'on me montre tout de suite le truc qui fait peur, et du coup ça me casse la vibe pour tout le film en fait. Mmh. Donc voilà, j'aime bien la suggestion, et là c'est un peu dommage je trouve d'avoir cassé le mythe en enlevant ce sac. Voilà, c'est tout. Mais sinon, très bon film que je conseille.
C'est ça. Allez, j'ai vu Apple TV moi, je sais pas si c'est...
Apple TV
toujours... Ouais, bon bah un truc que personne n'a.
Je suis désolée.
Pardon, excusez-moi, peu de gens, ou à d'autres endroits.
On va compter sur Toshibana pour nous trouver une autre plateforme.
C'est ça. J'avais vu 2007, mais je sais pas si c'est.
D'accord.
C'est possible. Alors, je sais plus exactement quand il est sorti, mais.
Maintenant, si je me trompe pas, on va passer à un jeu vidéo.
Exactement. Donc, le troisième volet qui est sorti vendredi dernier, donc le 22. Octobre, moi je vais vous parler de toute la série. Déjà, à savoir, donc Dark Pictures, créé par Supermassive Games, qui sont d'abord essayés au jeu d'horreur avec Until Dawn, qui était quand même très bien réalisé. Ouais. Faut savoir que là, pour l'instant, on connaît la trilogie, mais il y a 8 jeux prévus dans cette saga. Donc, je trouve excellent, parce que franchement, on en manquait de ce genre de genre, et vraiment le format est hyper intéressant, parce que ça va être des épisodes d'environ 4-5 heures qui se jouent en solo ou en coop. La coop est géniale. Voilà. Le premier, c'était Man of Medan, on voit la bande-annonce. Donc ça met en scène un groupe, je vous lis rapidement comme ça au moins, vous avez à peu près toutes les situations, ça change vraiment d'un épisode à l'autre. Donc là, ça met en scène un groupe de 5 jeunes personnes partant explorer l'épave engloutie d'un bateau datant de la Seconde Guerre mondiale dans l'océan Pacifique et contenant diverses richesses. L'aventure est narrée par un personnage externe nommé le Conservateur. Conservateur, on va le retrouver dans tous les épisodes, il fait un peu office de narrateur, je sais plus le doubleur, mais je l'adore. Il y a une voix très particulière qui est géniale, voilà. L'histoire et la forme du bateau sont tirées de la légende du Ourang Medan. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ne le savaient pas. C'est une légende selon laquelle tout l'équipage de ce bateau aurait trouvé la mort dans d'étranges circonstances entre 1947 et 1948. Donc c'est inspiré plus ou moins de faits réels. En tout cas, c'est à l'origine, il y a quand même une histoire. Et le jeu est très très bien. Celui-là, je l'ai fait en solo. Malheureusement, parce que c'est vrai que... sur le 2, je l'ai fait en coop et ça fait la différence. Ça pose une ambiance qui est vraiment super. Ça pose aussi un peu le style court-métrage. Un peu, moi, ça me rappelle un peu voilà, le côté Black Mirror, Love, Death, Robot. On sort des épisodes comme ça, des histoires qui n'ont rien à voir mais qui font partie d'une collection. Et je trouve que ça manquait vraiment dans le monde du jeu vidéo d'avoir une série de jeux d'horreur comme ça, qui est en plus hyper bien travaillée. Voilà, donc les personnages ont... On s'y attache, on a envie de les sauver. Il y a beaucoup de fins différentes possibles avec tous vos persos morts ou sauvez-les tous. Voilà, c'est dans la veine de Until Dawn, encore une fois, mais c'est vraiment bien fait. Le Little Hope, c'était le deuxième. Le deuxième, du coup, c'est dans une petite ville américaine avec une histoire tristement célèbre de chasse aux sorcières en 1692. Alors que le groupe explore la ville, ils sont témoins de l'exécution d'un groupe de colons du passé qui leur ressemble exactement. Piégés et isolés dans la ville abandonnée, ils devront découvrir leur lien avec ce groupe de colons, reconstituer l'histoire de la ville et découvrir la racine du mal. Enfin, celui-là, je l'ai fait en coop. Et la coop sur ce jeu, en fait, est hyper intéressante dans le sens où on va incarner un personnage au hasard du groupe, donc ça, ils sont cinq en général. On va incarner un personnage du groupe, mais on ne sait pas forcément qui incarne notre ami. Et il peut être totalement dans une autre cinématique pendant que nous, on vit autre chose. Et en fait, les histoires vont se recouper. À un moment donné, les personnages vont se rejoindre. Mais des fois, ils se séparent et on est un peu livré à nous-mêmes parce que l'autre doit aussi se concentrer sur son histoire à lui, essayer de sauver le maximum de personnes. Et c'est quand on revient, en fait, qu'on se dit, bon, bah, qui c'est que t'as tué? Qui c'est que t'as sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est hyper intéressant comme approche. Et ça me fait penser un peu à A Way Out, qui était un jeu aussi en coop avec
Oui.
écran plus ou moins scindé. C'était hyper bien travaillé aussi. Et vraiment, la série Dark Picture, je trouve qu'elle excelle là-dedans.
Little
Et le tout
Hope,
dernier.
on l'avait eu en coop sur Cooldown TV en live, je me
C'est
souviens.
vrai?
Ouais.
Ouais, il était bien, hein. Franchement,
Ouais, ça marchait très
ça
très bien.
fonctionne.
Il est
Ouais.
vraiment en plus bien foutu. Moi, je trouve l'ambiance. Du coup, la cinématographie, tout est vraiment hyper bien fait, je trouve.
La
Little
narration
Hope, c'est Silent Hill, hein, moi je trouve. Hein. C'est un hommage à Silent Hill
visuelle.
direct avec la ville dont on ne peut pas sortir dans la brume. C'est pour ça que je pense que ça va clairement être un de mes épisodes préférés, parce que Silent Hill, c'est mon jeu de cœur. Donc j'étais très contente de retrouver un peu cette ambiance-là, piégée dans une ville sombre. Le 2 est très très cool. Et le dernier, du coup, c'est House of Ashes. À la fin de la guerre d'Irak, des forces spéciales à la recherche d'armes de destruction massive découvrent quelque chose de bien plus mortel, un temple sumérien enterré contenant un nid de créatures anciennes et étranges. Pour survivre à la nuit tombée, ils doivent forger une fraternité avec leurs ennemis du monde d'en haut. Du coup, c'est celui-là qui est sorti vendredi. Donc bon, la découverte de créatures anciennes, nanana, bon, on retrouve un peu les veines de Alien, hein, ce groupe armé qui découvre. Et on a aussi un peu un côté The Descent, le film The Descent, qui est en fait un groupe de femmes qui en fait descend dans des grottes pour faire de la spéléologie et se retrouve face à des créatures qui vivent là depuis un moment. Et voilà, donc il y a beaucoup d'inspiration. Moi, j'ai commencé hier, c'était hier, ouais, en coop du coup avec Madix qui est sur le chat. Donc voilà, c'était sympa. Il s'est pas encore passé grand-chose de notre côté. Alors du sien, oui, parce que du coup on le fait en coop et moi j'ai pas vu beaucoup de créatures encore. Lui, il a crié de temps en temps comme une fillette, voilà. Donc ceci dit, bah si vous voulez voir la suite, hein, j'en profite, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. Je continue vendredi soir.
Je remets le
Voilà.
lien Joy Tsuna, vous pouvez le trouver
J'ai
sur
essayé de
Twitch.
vous mettre le lien du Twitter parce qu'en fait sur Cooldown. Le Twitter de Cooldown, on vous offre ce jeu en ce moment même. Il y a un concours pour gagner ce jeu. Donc allez, vous l'avez en dessous en description sur Twitch. Allez sur notre Twitter et
Sur le
participez.
Twitter
Vous
de Cooldown, ouais.
pouvez gagner ce jeu-là. Et merci à Pat d'Ours qui débarque avec un raid. Hello.
Ah, ça, du coup,
Hello.
réagis à tout. Coucou, raid. On est sur presque la fin de l'émission, il nous reste des petites choses encore, donc restez là pour le show, on est là chaque mercredi dès 21h pour plein de choses. Donc voilà, c'est noté hein, pour les ceux qui raident. Voilà, des bisous à tous. Du coup, on te laisse
Et
reprendre.
Merci Joy, du coup, de ces découvertes et puis de ce rappel de cette série de jeux vidéo qui est effectivement super et qui en coop,
Ouais.
pour un jeu d'horreur, c'est quand même pas si courant. Même si
C'est
maintenant il y
ça.
en a quelques-uns.
Et bien
Non, mais c'est
fait.
bien parce que si ce genre de système, en plus le jeu, je sais qu'il est quand même assez bien noté, il y a des bons retours dessus, c'est vrai que ça pourrait amener une coop assez différente et qui manque, je trouve. C'est vrai que
Mais Resident
multijoueur, on
Evil
en a un
6, c'est de
peu
l'horreur, il y a de la coop, non, c'est de la merde.
Resident Evil 6, par pitié, quoi.
Ah là, je tente des choses, hein. Je tente de sauver les meubles des autres, mais pas du tout.
La seule chose que je pourrais reprocher, c'est peut-être la rejouabilité, parce que quand on connaît la fin, c'est comme un film, faut pas spoiler la fin. Si on la connaît, on n'a pas forcément envie de le revoir en entier.
Oui.
Mais il y a quand même ce côté challenge, peut-être en coop
Attends.
aussi, qui motive à sauver tout le monde,
Après,
tous les persos,
si j'ai bien
etc., quoi.
compris, ils ont 5 heures de durée de vie chacun, ces jeux,
Ouais, à peu
et
près.
il y en aura 8 au final. Donc c'est vrai que bon, la rejouabilité, pas forcément. Tu te fais la série, quoi.
C'est ça. Ben après,
Ouais.
je pense que c'est quand même une bonne collection à voir si jamais. Moi, par exemple, Little Hope, je suis pas fermée à le refaire en coop. avec Madix, parce que voilà, en fait, ça nous a plu. Plus le temps passe, plus on va oublier ce qui se passe, etc. Et du coup, c'est quand même bien d'y retourner. Et non.
Et on se fera un marathon, en fait.
Effectivement.
Quand ils seront tous
c'est
sortis.
C'est ça, non, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est génial. Et j'espère qu'après, bah, Supermassive vont exploser avec cette série et continuer ce genre de jeu d'horreur, parce que même Until Dawn fonctionnait déjà très bien à l'époque, quoi.
En espérant que l'horreur en jeu vidéo continue sur cette pente, parce que ça fait des jeux de qualité. Bah, merci Joy de nous avoir fait mi-frissonner, mi-aimer un peu tout. C'était.
Bah, avec plaisir. Et il y a des offres sur l'anthologie si vous voulez pour Halloween, si jamais sur toutes les plateformes. Les trois jeux sont liés à des offres. Voilà.